Flo, tu veux fermer la porte? Ce matin, c'est Jean-David qui va nous parler, nous prêcher sur l'amour du Père. Et je voudrais le bénir et honorer qui il est. La Bible nous dit qu'elle nous met en garde contre les lèvres flatteuses, mais elle nous dit de rendre honneur à qui honneur est dû. Et Jean-David, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est du royaume de Dieu depuis que je le connais avec, depuis maintenant 1 an et demi. Ils n'ont eu de cesse de vouloir faire avancer le royaume de Dieu, de ne pas chercher leur intérêt personnel. C'est une chance pour nous, Connect Noble, de l'avoir au milieu de nous, avec son épouse Aurélie. Ils font juste un travail super extraordinaire. Ça a été aussi un soutien dans des moments d'épreuve et de tempête. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Sois béni, mon ami.
Merci, Jo. Merci, Seigneur, surtout. Quelle joie de vous voir ce matin. C'est vrai que c'est un plaisir d'être ensemble. Et merci, Jo, pour ta confiance. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Excusez-moi, je m'installe, mais... aujourd'hui, c'est le troisième volet donc sur le cœur du Père, et je voudrais vous parler, est-ce qu'on est adopté ou orphelin ? Et je crois que c'est le dernier volet, je vous ai prêché deux fois déjà sur ça, aujourd'hui c'est moi. Et j'espère qu'à la fin de cet enseignement, vous aurez pleinement saisi le cœur du Père pour vous, parce que c'est vraiment un fondement. Et je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur, je te prie pour ces moments. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton action dans nos vies. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es un papa qui nous aime, parce que tu as tout et nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour notre attitude parfois d'enfant orphelin, Seigneur, qui lutte par ses propres forces, qui cherche à plaire, à être reconnu, Seigneur, mais on veut vraiment se sentir accueilli par toi et réaliser ton amour de Père pour nous ce matin, et que chacun puisse saisir cette vérité, Seigneur, puisse sentir ton cœur ce matin, Seigneur, et puisse être transformé, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu nous sanctifies par ta parole, Père. Amen. Alors Jo, la semaine dernière, il vous a parlé d'une histoire du fils prodigue avec un père et de son frère aîné. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler aussi d'une autre histoire. Je vais baser mon enseignement sur un autre binôme, celui de Cain et d'Abel. Et voir, je vois l'interrogation de Jo, de voir un petit peu, aussi, c'est l'histoire d'un père, d'un cœur de père, de Dieu. Et de deux enfants. Et on va voir que ces deux fils, en fait, ils se binôment. Il y en a un dont le comportement, il préfigure, on va dire, la loi. Et un autre, il configure, il préfigure ce que c'est de vivre sous la grâce. Donc c'est ce qu'on va voir. Dans ces deux fils, il y en a un qui agit comme un fils qui est adopté. Et il y en a un autre qui agit comme un fils qui est encore victime d'injustice, qui cherche à reconnaître et être reconnu de son père céleste parce qu'il va produire, parce qu'il va faire, et qui symbolise l'esprit qu'on verra, que j'appellerai dans mon message l'esprit orphelin. Vous comprendrez comme ça. Donc un, c'est Cain, et celui qui l'autre, c'est Abel. Et on va commencer cet enseignement aussi par voir, en fait, qu'est-ce que sont les racines des insécurités dans nos vies, et ce qui fait que parfois on se comporte en orphelin sans père plutôt que de vivre comme des fils et des filles qui viennent, qui posent leur tête contre le cœur de Dieu, qui entendent battre son cœur pour être pleinement dépendant de lui, comme Jean pouvait l'être. Et peut-être que tout comme moi, dans ce que je vais décrire, vous allez vous reconnaître parfois dans l'esprit orphelin ou dans l'esprit adopté. Et vous allez vous reconnaître dans certains traits de caractère de l'orphelin. Pourquoi je dis ça ? Parce que même si on a eu la révélation du cœur du Père, parfois, dans notre vie, il y a des difficultés qu'on traverse dans notre existence, comme la maladie, comme un deuil, comme une séparation, comme parfois des difficultés dans son travail ou autre, qui nous font vite en fait retomber. Il faut que je le tienne comme ça. Qui nous font vite retomber dans l'esprit orphelin. C'est bon ? Vous m'entendez ? Dans un esprit orphelin. Donc, on va voir comment repérer ces signaux et surtout comment rester et retrouver un esprit d'adoption. Donc tu peux mettre la slide suivante. Donc, on va lire un passage dans Genèse, au chapitre 4, au verset 1 et 2. Il nous est dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur ou cultivateur. » Donc là, on voit il y a une mère, Ève, qui va prendre une revanche sur la vie. On se rappelle que c'est par elle que le péché est rentré dans le jardin d'Éden. Donc elle est pleine de culpabilité, elle est aussi en colère envers Dieu. Et en fait, pour elle, le fait d'avoir un fils, c'est aussi une revanche qu'elle veut prendre. Et on va voir qu'elle va elle dit « J'ai formé un homme ». Et elle va transmettre à son fils Caïn cette malédiction du péché. Vous savez qu'il y avait dans le jardin deux arbres, un arbre de la connaissance du bien et du mal et un arbre de la vie. Et du coup, ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque le jour où ils en mangeraient, le Seigneur a dit « Ben, vous mourrez ». Pourquoi ? Parce que vous allez connaître en fait ce qui est bien et ce qui est mal, et vous allez vous diriger selon les exigences en fait de la loi. Et en fait, personne n'est capable de tenir les exigences de la loi, sauf, on va le voir et vous l'avez dans l'histoire, c'est Jésus qui est venu accomplir pleinement toute la loi, parce qu'il n'y avait que lui qui était capable d'accomplir la loi. Et suite à ça, et ben, ils ont découvert par la loi qu'ils étaient nus, donc ils se sont cachés, ils ont commencé à vivre. Et là, ben, Dieu leur a quelque part, comme les conséquences de leur péché, ont entraîné des malédictions. Notamment qu'elle devait enfanter dans la douleur, que la terre serait dure, qu'il faudrait la cultiver et qu'ils allaient gagner leur pain à la sueur de leur front. Mais dans chaque malédiction, Dieu offrait aussi une possibilité de restauration et une bénédiction. Donc c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est que quand il y a quelque chose qui, même avec une malédiction, il y a toujours une possibilité, une bénédiction associée, une restauration. Donc on voit que là, une des malédictions, c'était qu'il devait travailler la terre, que la terre serait dure, que le sol serait aride, qu'il fallait le cultiver. Et elle va transmettre à son fils cette malédiction du péché. Vous rappelez que, du coup, Caïn, on nous a dit que c'était un cultivateur. Donc Caïn, lui, il va travailler dur, il va bosser dur pour avoir des belles récoltes, il va labourer ses champs, il va avec son travail, avec sa sueur, avec son mérite, c'est ça qu'il va le faire. Et on va voir qu'il va, il va offrir à Dieu une offrande qui va être, que je vais appeler très légaliste, pour prouver en fait qu'il vaut quelque chose, que lui, il va racheter la malédiction de ses parents, et qu'avec lui, ça ne va pas se reproduire, qu'avec lui, il va faire mieux qu'eux. Et parfois, moi, je me reconnais, ou on se reconnaît dans cette histoire, c'est que parfois dans nos vies, dans nos familles, il y a eu des malédictions. Donc il y a eu des choses, des parents qui ont fait des fautes, et nous, parfois, on est les héritiers de ça. J'ai rencontré une dame qui me disait, quelqu'un me racontait, sa grand-mère était amoureuse, elle voulait se marier avec quelqu'un. Et en fait, cet homme, il n'était pas chrétien. Et tout le monde lui disait, non, ne te marie pas avec lui, il n'est pas chrétien. Tu sais, on doit se marier avec quelqu'un qui partage ce qu'on vit, les mêmes aspirations que nous, la même vision, etc. Elle s'est mariée avec ce gars-là parce qu'elle l'aimait. Et cet homme est devenu alcoolique, il l'a battu, etc. Elle a vécu des choses difficiles toute sa vie, et quand du coup elle a eu sa mère et elle a eu une fille, et sa fille a eu un fils derrière, et ce fils disait moi quelque part avec ma mère c'était on devait aller à l'église, on devait faire les choses bien, on devait être dans la droite ligne, on devait, parce que quelque part on pensait toujours à l'héritage de la grand-mère et qu'il fallait pas qu'on reproduise ce qui s'était passé. J'ai rencontré, je connais bien une autre dame aussi, qui, en échangeant avec elle, cette femme a été toujours hyper jalouse, elle croyait toujours que son mari l'a trompée, elle était toujours suspicieuse, elle a vécu sa vie dans des craintes, dans des angoisses. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi elle est comme ça en fait ? Et dans son grand âge, on va dire, ce qu'elle nous a partagé, qu'elle avait toujours caché, en fait, c'était qu'un jour, quand elle était petite, elle est rentrée à la maison et elle a découvert son père qui trompait sa mère avec une autre femme. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui était hyper dur, hyper violent pour elle. Et toute sa vie, elle a vécu dans la crainte et l'angoisse, en fait, de reproduire la même chose et que son mari la trompe, etc. Et elle n'a jamais traité, en fait, cette racine-là. Elle n'a jamais réglé ce traumatisme-là de son enfance. Donc ce matin, ce que je voudrais, quand on va avancer, c'est qu'on voit que Il y a des choses qu'on doit faire et puis il y a des choses aussi de notre passé, aussi de nos ancêtres qu'on doit traiter pour être vraiment libre de cet esprit orphelin. Et là, on voit Ève, elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Donc, en fait, elle, quelque part aussi, ce qu'elle se dit, après, moi, c'est, je l'interprète comme ça, vous l'interprétez aussi comme vous le disiez, mais c'est comme si mon homme, mon mari, n'a pas été là. Lui, il était là, Adam, il devait me protéger, il devait me protéger du mal, il devait me protéger du serpent. Et lui, il a failli, il n'a pas été là. Mais maintenant, moi, j'ai formé un vrai homme. Et avec lui, avec cette génération-là, les choses, elles vont changer. Et il va tout faire bien. Je vais racheter la malédiction avec lui. Et la Bible, elle nous dit que Dieu avait rendu la terre dure. Et donc, Caïn, lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit ? Il doit se dire, bah, papa, avant, il n'a pas assuré, il n'a pas su protéger maman, ils ont été déchus du paradis. Mais moi, maintenant, je vais me relever les manches, je vais bosser dur. Je vais mettre toute mon énergie, je vais taper, je vais briser les mottes, je vais cultiver cette terre qui est aride, qui est maudite, je vais arracher les ronces, je vais bouger les rochers, et puis je vais commencer à cultiver. Et par mes œuvres, par mon travail, eh ben, je vais y arriver, par ma sueur, par mon mérite, et moi je vais réussir à faire quelque chose par Dieu, et je vais leur prouver que je vais y arriver, et je vais prouver en fait que ben, cette terre elle va produire quelque chose, et je vais racheter cette malédiction. Donc lui, il est là, il est dans cette habitude. Et pour moi, c'est la puissance de la loi. C'est quand on fait des choses, ben aussi, parfois, nous, dans nos vies, on se dit « Ouais, ben, je vais faire ça, je vais prier, je vais jeûner, je vais passer du temps avec Dieu. Puis, parce que je vais vraiment me consacrer, ben, je vais m'en sortir. » Puis ça tient un moment, puis on voit que si on n'est pas vraiment guéri et réconcilié avec le Père, ça ne marche pas très longtemps. Donc le problème, c'est que lorsque les malédictions générationnelles ne sont pas traitées, ben, ça ressort toujours. Souvent aussi, ça passe sur l'enfant premier-né, on y reviendra tout à l'heure. Abel, lui, bah lui, c'est un berger. Donc lui, en tant que berger, c'est un peu plus un planqué donc par rapport au travail du cultivateur qui travaille dur, qui a un travail très physique. Lui, il s'assoit sur son rocher. Globalement, il surveille les brebis. C'est cool, elles sont parquées. Je dirais, il les soigne un peu, il les protège un peu. Quand il y en a une qui s'égare, il va la chercher. Mais ce n'est pas tout à fait le même travail, d'accord ? C'est quand même moins fatigant. Donc lui, il vit plus sous la grâce, quoi. Il est là. Et quelque part, ben, les brebis, elles se multiplient, elles se prospèrent. Et lui, il regarde les brebis se multiplier sous lui. Et du coup, c'est cette foi, cette simplicité de cœur que Dieu aussi va multiplier. Et que ce n'est pas lui qui fait les choses, mais que c'est Dieu qui fait les choses. Et ce qu'on va voir. Donc si tu peux mettre la slide suivante. On lit un peu plus loin dans le passage de Genèse qu'au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tu as. Donc là, on voit les deux, ils vont arriver devant Dieu. Les deux, ils ont envie de plaire à Dieu. Et les deux, ils vont venir avec une offrande. Caïn, il va arriver avec une offrande de légumes qu'il a cultivé, des gros fruits, avec tout son mérite, avec tous ses efforts, avec toute sa sueur, tout ce qu'il a produit. Et on nous dit qu'Abel, lui, il est venu avec les prémices, avec les premiers agneaux que lui, il a obtenus sans rien faire. Il les a pris dans le troupeau qu'il surveillait. Et on retrouve aussi dans ça les principes de la Bible, des prémices, de donner vraiment la priorité à Dieu. Et on voit que Dieu, il va accepter l'offrande d'Abel, mais qu'il va rejeter celle de Caïn. Donc là, personne réagit. Pourtant, on pourrait se dire, c'est la plus grande injustice de l'histoire. Dieu, c'est incompréhensible. L'autre, il bosse comme un taré, il cultive son champ, il produit, il donne des légumes, il t'amène des trucs qui sont super beaux. Il a trimé toute sa sueur et tu agrées pas. Donc, quelque part, on pourrait croire que Dieu est injuste. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il en a favorisé un plus que l'autre. Mais non, Dieu ne fait pas de préférence. Mais on va voir que c'est l'esprit qui est qu'un qui est mauvais. Et il veut prouver à Dieu sa valeur. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se laisse aimer par lui et qu'on l'aime. Et ça, ça vaut bien plus que tous les sacrifices. Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce qui est terrible, c'est que quelque part, je pense que Dieu voulait apprendre quelque chose à Caïn à travers cette histoire. Mais il aimait toujours Caïn, il aimait autant que l'autre, et il n'avait pas de différence dans son cœur, ni pour Caïn ou pour Abel. Et ce qui est terrible, c'est que le diable, il lui a fait croire à Caïn qu'il n'était pas aimé, que son offrande n'avait pas de valeur. Et du coup, ça a renforcé, on va dire, son sentiment d'orphelin. Et là, il va rentrer dans une colère terrible, il va être jaloux de son frère. Et il va finir par le tuer. Et il le tue pas n'importe où, il le tue pas dans la maison de papa, il le prend à l'écart et il l'amène dans ses champs, il nous est dit dans son champ. Et là, dans son champ, une fois qu'il l'a mené, il lui demande, mais tu vois ce que ça m'a coûté en heure de travail, tu vois mon offrande là, il veut lui faire montrer à son frère que finalement, lui, le temps qu'il a sué, qu'il a trié, tu vois les heures de prière que j'ai passées à l'église, tu vois tous les dimanches matins où je suis venu à 9h30 pour mettre la salle, tu vois tout ce que j'ai sacrifié pour toi, Seigneur. Et parfois, nous, on est comme ça avec le Seigneur. On dit, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait. Tu vois, Seigneur, tout ce que j'ai consacré. Tu vois, Seigneur, tous les dimanches que j'ai passés pour l'Église. Tu vois, tous les vendredis de soir de prière où je suis venu. Tu vois que quand c'était difficile, que quand mon copain m'a largué ou ma copine m'a largué, j'ai continué à venir et être pour toi. Et parfois, on réagit comme ça avec le Seigneur. On lui dit, tu vois, Seigneur, ce que j'ai fait. Tu vois ce que ça m'a coûté. Tu vois ce que j'ai payé pour toi. Les heures et les heures, le nombre de réunions. Et on vient avec Caïn, un peu comme notre gros légume. Tu vois mon gros légume, tu vois mon offrande, tu vois ce que j'ai fait. Et j'en pouvais plus, j'étais épuisé. Et ça, ce don-là, Seigneur, ce que j'ai fait, tu le vois pas. Et quelque part, ça m'a coûté cher. Et là, la colère, elle monte du sacrifice que Dieu n'a pas accepté. Et là, il prend son frère Abel et il le tue. Alors toi, peut-être tu vas me dire, oula, moi j'ai pas tué mon frère, mais dans la Bible, il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et parfois, nous, avec notre langue, on va tuer. On va pas tuer physiquement notre frère. Mais parfois, dans l'Église, parce que c'est dans le champ, Jésus, ceux qui l'ont mis à mort, c'était les pharisiens, c'était les docteurs de la loi, c'est ceux qui connaissaient par cœur la loi. C'est pas les gens du monde, les gens du dehors qui l'ont condamné. Et nous, parfois, c'est souvent à l'intérieur de l'Église, c'est nos frères et nos sœurs qui nous condamnent, qui nous tuent, parce que en fait, quelque part, il y a une confrontation parfois entre l'esprit légaliste, l'esprit pharisien, et puis l'esprit adopté. Et quelque part, il faut faire attention, parce que si on ne règle pas nos problèmes, si on ne vient pas adopter, aimer du Père, qu'on sait qu'on a tout pleinement en lui, on va le voir. Le risque, c'est qu'on va nourrir de la rancœur, on va nourrir de l'amertume et de la colère, on va devenir jaloux des autres et on va chercher une reconnaissance. Et si on voit un autre qui brille plus que nous, on va être jaloux et on va essayer de le tuer quelque part avec nos mots, notre langue. On passe à la slide suivante. Je suis bavard, je suis désolé. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus en détail ce qu'est l'esprit d'adoption versus l'esprit orphelin. Donc, le projet de Dieu, c'est de nous faire rentrer dans un esprit d'adoption. Donc, dans Romains 8, versets 14 et 15 et les suivants, on nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc là, on voit que dans ce verset, l'apôtre Paul il utilise le mot grec « iothésia, je vous ai mis en grec, pour parler de l'adoption. Et en fait, c'est dans ce terme-là, c'est le projet de Dieu, c'est de nous sauver et de nous accueillir comme ses enfants. Donc ça, c'est un concept d'adoption, c'est une image qui est puissante, mais ça ne reflète pas tout à fait la vraie réalité spirituelle. Et je voudrais, si tu nous mets la slide suivante, c'est que dans le mot adoption, en fait, on ne le retrouve pas, ça n'existe pas comme nous on l'entend en hébreu, dans l'Ancien Testament. On le retrouve une seule fois, c'est en Esther 2:7, où il nous est dit de Mardoché, il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Donc dans l'Ancien Testament, le mot qu'on trouve, qui est utilisé, c'est l'akash, et on le retrouve ici entre Esther et Mardoché, et ça signifie prendre, recevoir, accueillir, épouser, enlever. Donc en fait, c'est plus qu'une adoption au sens moderne où on n'a pas de plus son père ou sa mère et que quelque part c'est un père de substitution qui nous accueille et qui nous adopte comme son fils, mais c'est vraiment qu'on est accueilli, on est pris en charge dans une relation filiale originelle. Et c'est un peu ce que Joe vous montrait la semaine dernière avec le fils prodigue, où il revient vers son père. Donc l'adoption, c'est aussi dans ce sens-là que moi je l'entends, c'est vraiment revenir au père et à notre Père Céleste. Donc c'est un retour du fils qui s'est éloigné au père qui l'accueille. Alors, slide suivante, si on voit les questions à se poser... Eh ben, si on veut avoir avec Dieu cette relation de père à fils ou de père à fille, eh ben, faut qu'on se pose quelques questions. À qui est-ce que j'appartiens vraiment? Qui pourvoit réellement à mes besoins? Qui me protège? Qui est capable de m'établir dans mon identité, de me dire qui je suis? Et qui est-ce qui dirige vraiment ma vie? Et si tu mets la phrase suivante, souvent, il faut être honnête, c'est souvent nos peurs et nos angoisses qui nous dirigent. Et ça a été dit ce matin, plusieurs fois c'est ressorti dans la louange, c'est sur la crainte, sur les angoisses. Chez Caïn, c'était la peur peut-être de manquer de nourriture, peut-être la peur de ne pas plaire à Dieu, que son sacrifice ne soit pas accepté, la peur d'être moins bien que son frère. Les peurs et les angoisses qui nous animent, elles prennent toujours racine dans des mensonges auxquels on croit. Et ces mensonges-là, eh ben, ça devient des forteresses. Donc l'orphelin, c'est toujours quelqu'un qui lutte, en fait, toujours avec la peur, toujours avec la peur et avec le fait de la peur de faire confiance. Il est très indépendant, il n'ose pas faire confiance aux autres, il se sent seul. Il considère que même les autres, bah, globalement, ça peut être une menace pour lui potentielle. Et il a toujours besoin de se réaliser, de s'accomplir pour être quelque chose, pour être approuvé, pour avoir le plaisir d'être accepté et d'être reconnu. Et on verra que c'est souvent aussi le vie, de, si tu mets la slide suivante, c'est que le projet de notre Papa Céleste, de notre Papa Dieu, c'est que nous vivions une vie sans peur, qu'on soit libéré de la peur de faire confiance, de la peur d'être vulnérable, de la peur de rencontrer les autres, de se laisser toucher par eux. Et les racines de la peur et de l'anxiété, ça peut être le manque de soins, de sécurité qu'on a reçu. Ça peut être des trahisons qu'on a vécues. Ça peut être des rejets aussi dans notre enfance, des échecs. Ça peut être des abus aussi. Ça peut être aussi des bastions générationnels qui sont là, qui existent dans nos familles. Ça peut être aussi des comportements qu'on a acquis, qu'on a développés avec le temps. Et on a besoin d'être guéri, d'être délivré de ses peurs et de ses angoisses. Et la peur, elle ôte nos capacités. Elle nous va faire ressortir le pire de nous-mêmes. Et il y a un verset, vous connaissez tous le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je crois qu'il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires » et que Abel, lui, il avait compris en tant que berger que l'Éternel est son berger et qu'il ne manquerait de rien. Il voyait simplement ses moutons se multiplier par la grâce de Dieu. Il n'avait pas peur et il voulait offrir à Dieu les prémices, son amour, sa reconnaissance. Et si on lit la phrase suivante dans le slide 9, si notre source n'est pas dans le cœur du Père, elle nous plonge dans une course à la performance comme Caïn. Si on est honnête, on va vite retomber dans cette course à la performance avec l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui avec la pression du monde. On est toujours poussé à faire toujours mieux, à faire plus, à travailler. Et les conséquences de cette course, ça va être que parfois on va être tombé dans des addictions. On va tomber soit dans la soif de reconnaissance, dans le besoin d'avoir des titres, d'être reconnu par les hommes, d'avoir des diplômes, d'être quelqu'un. L'exercice du contrôle parfois. Parfois, il y a des gens, c'est la recherche de biens matériels. On va acheter, on a une belle voiture, une maison, donc on nous dit, parce que tu as ça, tu es quelqu'un. Et on va tomber dans la codépendance dans les relations, la recherche d'une place dans la société, dans l'église. Ah ben dans l'église, il faut que je prêche, il faut que ce soit la louange, parce que sinon, ben, je ne suis pas quelqu'un ou je ne suis pas reconnu et on ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Donc l'orphelin, il va aller toujours chercher en fait ça. Et on va voir que ce n'est pas le bon plan. Et parfois, c'est dans nos vies qu'on a été élevé comme ça. Et on a besoin d'être délivré de ça. J'entendais le footballeur de la Coupe du Monde, là, Franck Leboeuf, qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Il disait, mon père voulait que je sois un footballeur professionnel. Et toute ma vie, j'ai vécu pour plaire à mon père, pour devenir un footballeur professionnel. Et il disait, j'écoutais à la télé, il disait, et c'est que quand j'ai gagné la Coupe du Monde, le soir de la Coupe du Monde en 98, que mon père m'a dit qu'il était fier de moi. C'était comme s'il avait atteint le sommet même de toute sa carrière. Il a joué dans des grands clubs, à Chelsea, en équipe de France. Et il courait toujours après la reconnaissance du père. Alors n'attendez pas que vos enfants réalisent des rêves que vous avez placés en eux ou que vous projetez à travers eux pour leur dire simplement que vous les aimez pour qui ils sont et pour les créatures merveilleuses que Dieu a faites. Amen. Si on regarde la slide suivante, c'est un tableau qui a été envoyé par Romain qui nous avait fait déjà un petit topo sur ça pendant le temps de jeûne et prière au mois de janvier. C'est tiré du livre de Julien et Sandra Duby, « Toi, lève-toi ». Et on voit quelques petits points en fait sur qu'est-ce qui nous fait reconnaître et à quoi on peut regarder déjà, se poser les questions, est-ce qu'on est orphelin ou est-ce qu'on est fille ? Et fille du roi des rois. Donc quelle est l'image de Dieu ? Est-ce que j'ai l'image de Dieu comme un bon papa ? Ou comme un tyran, comme un père fouettard qui dès que je fais une bêtise, va me tomber dessus avec une condamnation. Comment je vis le rapport au corps de Christ ? Est-ce que je suis indépendant des uns des autres ? Est-ce que je suis dans la relation fraternelle, dans le soutien les uns aux autres ? Ou est-ce que je vis l'indépendance, je fais mon truc et je vis, je viens au culte et je vis ma vie seul à côté ? Quelle est la loi qui gouverne sur moi ? Et c'est, est-ce que tu vis sous la loi de l'amour ou est-ce que tu vis sous la loi ? Quel est ton sentiment intérieur ? Est-ce que tu te sens en sécurité ? Est-ce que tu te sens en paix ? Ou est-ce que tu vis dans l'insécurité ? Est-ce que ta source d'approbation, c'est le Père ? Tu sais que si Papa Dieu, il te dit de faire des choses, tu le fais et que peu importe ce que ça te coûte, ce que tu cherches, même si ça ne plaît pas aux hommes, tu le fais parce que ce que tu cherches, c'est que lui soit heureux et qu'il soit fier de toi. Ou est-ce que tu vas chercher ta reconnaissance dans les autres, que les autres disent ben, « c'est bien ce que tu fais, c'est beau, t'es merveilleux, t'es super ». Est-ce que ta motivation à servir, elle est par amour pour les autres ? Est-ce que parce que tu aimes ton frère, parce que tu aimes ta sœur, parce que tu aimes Dieu, tu viens à l'église pour servir, pour donner ton temps, pour faire avancer le royaume de Dieu ? Ou est-ce que tu le fais pour obtenir quelque chose, pour obtenir une place, une reconnaissance, un titre, être responsable ? Est-ce que la discipline, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu fais par amour pour Dieu ? Tu cherches à lui plaire ? Ou est-ce que tu vas faire les choses par devoir religieux ? Parce qu'on t'a dit, il faut que tu lises des versets, il faut que tu lises ta Bible tous les jours, il faut que tu passes un temps de prière. Comment tu vis ces choses-là ? Je vous ai perdu ? Non. La poursuite de la sainteté, est-ce que tu le fais pour lui ressembler parce que lui, il est saint et que tu veux lui ressembler ? Ou est-ce que tu le fais pour être accepté ? Et si tu mets la suivante, l'image de soi. Alors là, je voudrais tous que vous vous leviez. Vous me dites, qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, vous allez faire un quart de tour comme ça, vous allez regarder ce miroir-là. Et vous allez me dire comment vous vous voyez. Romain, comment tu te vois ? Beau gosse. Amen. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous regarder dans un miroir et d'aimer ce que Dieu a fait de vous ? Est-ce que vous pouvez dire « Je suis ce que je suis et la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi ?» On dit ça en rigolant, mais parfois, ce n'est pas facile. Il y a des gens, par rapport à ce qu'on a vécu, notre vécu, parfois, on a du mal à s'accepter soi-même. On a du même à se regarder soi-même. On a du mal à avoir une image positive et voir comment Dieu nous voit. Mais Dieu, quand il te voit dans son miroir, quand il te regarde, il est fier de toi. Il dit « Je suis fier de toi, mon fils, ma fille, je t'aime. » Amen. Notre source de réconfort, c'est l'amour du Père. Quand je ne vais pas bien, c'est lui qui me console. C'est lui qui ne sait pas, je vais pas aller dans la sexualité, dans le tabac, dans d'autres trucs, dans d'autres dépendances, dans la boulimie, parce que je vais manger, parce que quand je mange, au moins, et ça me sécurise. On a tous des réflexes comme ça de choses où de l'activisme, je vais faire plein de trucs, Moi, c'est un peu mon truc parfois quand je vais pas bien, je fais plein de trucs pour oublier, pour penser à autre chose. Nos relations, est-ce qu'on vit les relations avec les autres dans l'humilité, dans l'honneur, dans l'unité, ou est-ce que je vis les choses comme une compétition, comme une rivalité, avec jalousie, j'envie ce que l'autre fait. Ah ouais, t'as vu, lui, il guérit les malades. Ah bah tu vois, lui, il prie, il y a de l'onction. Ah bah lui, tu vois, il a un ministère. Ou hop, on peut toujours être jaloux. Ou l'autre, il a ci, l'autre, il a ça. La faute des autres, comment je la gère? Est-ce que je l'expose au grand jour, je dis, ah, t'as vu, lui, c'est un pécheur, il a fait ci, ça, ça, ou est-ce que je couvre et je vais pardonner? Si je suis enfant, je couvre la faute. C'est peut-être inversé, là. J'ai fait un mauvais copier-coller. parce que c'était pas sous forme de tableau, donc j'ai essayé de le mettre au tableau. On corrigera avant que vous preniez la photo. La perception de l'autorité, est-ce que c'est une source d'apprentissage? Est-ce que je considère les pères, les mères, les anciens, les responsables comme des gens qui sont là pour m'apprendre les choses? Ou est-ce que parfois je le vis douloureusement parce que j'ai l'impression qu'on me dit ce que je dois faire? Comment je vis la correction ou les remarques? Est-ce que je les accepte ou est-ce que je les rejette? Est-ce que je suis au service de l'autre ou est-ce que j'utilise l'autre pour mes propres besoins? Est-ce que pour moi, ma vision, c'est quoi? L'intimité, ça précède la mission. Ça veut dire que le plus important, c'est mon cœur à cœur avec le Père, le temps que je passe avec lui. Et après, là, quand Dieu me parle, il m'envoie pour faire des choses. Ou est-ce que mes ambitions spirituelles, ça prime de faire des choses, de faire des réunions, d'implanter des œuvres, et toute la liste. Et est-ce que pour moi, mon avenir, je sais qu'il est en Dieu, donc j'ai confiance dans l'avenir? Ou est-ce que j'ai toujours des insécurités, des angoisses, et je vis en fait dans l'incertitude par rapport à l'avenir? Alors, il faut vraiment se laisser toucher par Dieu pour avoir. Et vous voyez, vous êtes, on est en chemin, parce que si vous arrivez à cocher toutes les cases, c'est que vous êtes déjà bien adopté. Parce qu'il y a des cases dans nos vies où on lutte et on se dit, Seigneur, là, je ne suis pas encore, je suis pas là, mais je veux me laisser transformer par toi. Si on met la slide suivante, je voulais vous parler aussi des quatre piliers de l'esprit orphelin qu'on retrouve. Dans ces piliers, et qu'on va retrouver, on les retrouve dans l'histoire de Caïn, c'est, alors pas décrit comme ça, mais on le voit, c'est le racisme. Tout ce qui est différent de moi, je vais le juger. Parce que je me crois supérieur aux autres, je vais juger les autres. Et je les juge pour leurs différences, je vais réclamer mes prérogatives, et on dit, en gros, touche pas à ce que j'ai. Et souvent, derrière, c'est un esprit qui est meurtrier, et c'est ce qu'on retrouve chez Caïn. La sorcellerie, c'est un autre pilier de l'esprit orphelin, parce que quelque part, je cherche à manipuler les autres, à les contrôler pour me rassurer. Donc, une manière de contrôler nos peurs et nos angoisses, c'est de manipuler, de contrôler. Et c'est comme ça, chez les hommes, souvent, ça se produit par l'intimidation. On montre qu'on est plus costaud que les autres et qu'on essaie d'intimider l'autre. Et chez les femmes, parfois, c'est plus par la manipulation. Mais tout ça, c'est des manifestations, en fait, de l'esprit orphelin. Un autre pilier qu'on retrouve dans l'esprit orphelin, c'est l'esprit religieux. Je fais les choses pour me donner bonne conscience. J'agis par l'égalisme. Je vais justifier ma valeur par mes œuvres, par ce que je fais et par mon obéissance à la loi. Regarde comme je fais bien ce qu'il faut. Regarde comme j'obéis bien à tous les standards de la loi. Le problème, c'est que personne ne peut tenir tous les standards de la loi. Et que Jésus nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ce que Dieu veut nous pousser à faire, c'est pas faire les choses par obligation, par devoir, par la loi, mais simplement par amour et par passion. Et l'esprit de pauvreté, c'est aussi un esprit qui est lié à cet esprit orphelin. C'est un esprit victimiste. C'est comme qu'un ben, je suis victime. Vous voyez, Dieu, il n'a pas agréé. Et ben, c'est lié rejet. Et puis, du coup, là, on tombe sur l'apitoiement sur soi. Moi, ce que j'appelle, c'est l'esprit Calimero. C'est trop injuste. C'est pas de chance. Et on va sublimer notre souffrance. C'est parce que je souffre, parce que, vous voyez, tout ce que j'ai fait, tous les légumes que j'ai produits, mais que ça, j'ai, mon sacrifice n'a pas été accepté. Et ben, je vais justifier ma rébellion. Et voilà, j'ai le droit d'agir comme ça. Parce qu'avec tout le mal qu'on m'a fait, avec toutes les calomnies qu'on a dit sur moi, eh ben, j'ai bien le droit de réagir comme ça et de manifester ma colère. Donc l'esprit, il réclame. Et souvent, ben, ça voit que ça finit par un esprit criminel qui va tuer les autres par la langue, par le pouvoir de la langue. Alors que la Bible, elle nous dit, j'ai tout pleinement en Christ. Donc j'ai rien à réclamer, j'ai tout en lui. Amen. Si tu mets la suivante... Donc, après tout ça, je pense que si on est honnête, on se rend compte qu'on a souvent des réactions d'orphelin. Alors, comment on fait pour rentrer dans un esprit d'adoption ? Eh bien, Dieu doit renouveler notre intelligence. Il est dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait dans vos vies. » Donc, Dieu veut renouveler notre intelligence pour qu'on le reflète. C'est comme dans un miroir, plus on va être dans la présence de Dieu, plus on va être en face à face avec le Père, plus on va le refléter comme dans un miroir. Et le fait d'être dans sa présence, le fait d'avoir ce cœur à cœur avec le Père, eh ben, je dis que c'est comme dans un miroir, on reflète. C'est dans 2 Corinthiens 3:10, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu te laisses toucher par Dieu, plus tu le reflètes et tu es transformé à son image. Et plus on va refléter, on va être en relation avec le Père, on va refléter le Père. Et si on ne rentre pas dans cet esprit d'adoption, eh ben on va rester des orphelins. Alors dans le verset, la slide suivante, merci. Dans 1 Jean 4,18, il est dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » C'est l'amour parfait, ben c'est l'amour du Père. L'amour parfait, il n'y a que lui qui a donné Jésus. Et le Père, c'est vraiment l'amour parfait. Et c'est que l'amour parfait qui peut bannir la crainte. On vit dans un monde qui est fait que de peur, d'angoisse. Je sais pas, vous allumez la télé, c'est les guerres, c'est les bruits de guerre, c'est la crise économique, c'est la crise politique, c'est on ne sait pas vraiment de quoi va être fait demain. Mais si tu es dans la présence du Père et que tu te laisses toucher par l'amour parfait du Père, alors lui, il va bannir la crainte. Amen. Dans la slide suivante, il est dit dans Romains 8, 15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc on a besoin d'une rencontre avec le Père pour être établi dans notre identité de fils et de fille du roi des rois. Et si vous ne l'avez pas encore vécu, ben on va prendre un temps tout à l'heure aussi pour vous inviter à prier et demander à Dieu de se révéler à vous en tant que Père. Et c'est cette révélation du Père qui pourvoit tous vos besoins, qui a un amour parfait pour vous, qui veut le meilleur pour vous, qui va vous libérer de vos angoisses, de vos insécurités, et qui va combler tous vos besoins de sécurité, et qui va vous permettre d'aborder la vie avec une confiance renouvelée sur le fait que c'est lui, Papa Dieu, qui est aux commandes de ta vie. Et si tu lui laisses les commandes, alors lui, il va te mener dans ce qu'il a prévu pour toi. Et tu peux lui crier « Abba, Abba, Papa ». Le mot « Abba », c'était un terme grec, mais aussi araméen, qui voulait dire une manière plus intime et affectueuse de s'adresser à son papa. Et en grec, on utilisait plutôt le mot « pater », qui était plus le père dur. Et « Abba », ça symbolise une relation plus intime, plus personnelle. Et rappelle-toi d'Abel qui est sur son rocher, qui fait confiance à Dieu, il est dans la paix, il sait qu'il est aimé, il vient avec son père avec reconnaissance, il lui offre les prémices du troupeau. Et qu'est-ce qu'il fait à un moment ? si tu es honnête, tu réfléchis là, tu prends 5 minutes et tu te dis, est-ce qu'il y a un moment où la peur a volé ma paix? Est-ce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai laissé rentrer la peur? Où cette peur, elle est venue, elle a développé des angoisses en moi et elle a volé ma paix? Est-ce que aujourd'hui tu dois pardonner à quelqu'un? Est-ce que tu dois te repentir aussi d'un comportement qui n'était pas juste, qui a suivi de ça parce que tu en as voulu à quelqu'un? Peut-être que tu as une crainte injustifiée de Dieu parce qu'elle est liée à l'image terrestre du père que tu as ou que tu as eu. Peut-être que tu n'as pas eu un père qui t'a aimé, peut-être que tu as eu un père qui t'a battu, peut-être que tu as eu un père qui a abusé de toi, et peut-être que tu as besoin d'être restauré dans l'image du père parce qu'aujourd'hui tu n'es pas en capacité de voir Dieu comme un père. Mais Dieu peut guérir ça et Dieu peut se révéler à toi comme un bon père. Amen. Vous pouvez demander à Jésus d'être là dans sa présence, dans la présence du Père, et de vous apporter cette relation spéciale, cette restauration de la relation de père à fils. Et donc, si tu mets la slide suivante, quand on a reçu ce cœur d'adoption, eh ben, on peut répondre aux questions de départ. À qui j'appartiens? À Dieu, à mon Créateur. Qui est-ce qui pourvoit réellement à mes besoins et me protège? Pas tous à la fois. Mon Père, mon bon berger, l'Éternel est mon berger. Qui est capable de m'établir dans mon identité? Dieu, mon Père qui m'a créé, qui m'aime. Je sais qui je suis et sa grâce, elle n'a pas été vaine pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Qu'est-ce qui motive ma marche? C'est mon souhait de lui plaire, c'est de lui faire plaisir. Qu'est-ce qui dirige ma vie? C'est de faire sa volonté parce que je sais qu'il a tout ce dont j'ai besoin. Amen. Comment devenir des fils et des filles? Il faut recevoir ce cœur d'adoption, recevoir l'amour du Père et nous soumettre à lui et trouver en lui l'intimité, le cœur à cœur dont nous avons besoin. Si tu peux mettre la suivante. Et en fait, la présence de Dieu, simplement, l'amour du Père, c'est un sentiment profond. On se sent accepté, on se sent aimé. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas un concept, en fait. Vous pouvez oublier plein de choses que je vous ai dit ce matin. Mais simplement, l'amour du Père, ce que je veux vous dire, c'est que l'amour du Père, il s'expérimente. Il s'expérimente dans sa présence. Et il y a le psaume 34, verset 8, qui dit « Sentez, goûtez et voyez comment, combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Entrez dans sa présence, qui vous fasse ressentir son amour. » Et dans le verset suivant, la slide suivante, pardon, dans Ézéchiel, il est dit « La transformation de nos cœurs, elle se fait par étapes. » Et Dieu, il va procéder à un échange. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et ça a été dit ce matin dans la parole. Et merci d'avoir eu le courage de la partager sur les outres et sur ces jarres qui sont explosées, parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose de neuf dans du vieux. Et Dieu, il dit, je viens, je te donne un cœur nouveau et je mets en toi un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et nous, on est responsable de ce cœur-là, ce cœur que Dieu va nous donner dans ce cœur à cœur. Et on a deux responsabilités. Un, c'est de faire attention que ce cœur, ce puits, ne se bouge pas de mauvaises choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, on ne le laisse pas boucher par nos mauvais sentiments et par nos peurs et par nos craintes. Et il y a un verset dans le psaume 87 qui dit « Tous ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. » Amen. Toutes mes sources sont en toi. Si tu mets la suivante, la création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Sur le chemin de la vie, on a peut-être été fragmenté, on a peut-être été brisé, on avait peut-être vécu des choses qui sont difficiles. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que l'adoption, quand on est accueilli par le Père, eh ben c'est toujours accompagné de rédemption, de restauration, de guérison, de résurrection. Amen. Tu sais que tes fils et que tes filles, tu peux fonctionner dans le corps sans compétition, sans jalousie. Et tu te bats pas pour avoir l'attention du Père, parce que l'attention du Père, tu l'as en permanence. Le Père, il veille sur toi, il t'aime en permanence. Amen. Tu peux avancer. Donc c'est retenir un truc, je vais vous dire, ce qui est important, c'est pas ce que vous faites qui va déterminer ce que vous êtes, mais c'est qui nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Amen. Notre nature, elle a toujours, humaine, elle a toujours besoin d'être rassurée, elle a toujours besoin de savoir qu'elle a de la valeur. Mais Jésus, lui, reflétait le Père, il savait qu'il était aimé du Père, et il faisait les choses pas pour être vu, mais simplement pour accomplir la volonté de son Père. Tu peux avancer. Juste un petit point que je voulais vous dire aussi, et que c'est qu'on a besoin aussi d'être libéré de l'esprit orphelin, de s'occuper aussi de notre cordon génétique spirituel, de l'iniquité parfois qui est enracinée. Et on a vu tout à l'heure qu'on voit avec Caïn, il y a une malédiction qui est dans la lignée avec Ève et qui n'a pas été traitée, et on en voit les fruits. Et si tu mets la suivante, dans Ézéchiel 16 au verset 3 et 4, il est dit: voici ce que le Seigneur l'Éternel dit à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Et dans Nombre 14 au verset 18, il est dit: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de couper dans nos vies les malédictions générationnelles. Alors je sais que parfois dans des églises, ce n'est pas ce qui est enseigné, mais après vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai vu trop de gens qui galéraient avec des malédictions qui n'avaient pas été traitées dans leur vie, et que quand on brisait ces malédictions au nom de Jésus, ils rentraient dans une nouvelle dimension. Il faut se repentir. La Bible, elle dit, je crois que tu peux mettre le verset suivant, dans Lévitique chapitre 26, verset 40, « Ils confesseront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, l'infidélité dont ils auront fait preuve envers moi et la résistance qu'ils m'auront apposée. » Donc là, ils confesseront leurs fautes et celles de leurs ancêtres. Donc moi, je veux dire, il faut se repentir des péchés de nos pères, de nos mères, demander pardon au Seigneur pour toute forme en fait de péché, pour tout ce qui est lié à l'occultisme, à la sorcellerie, aux pratiques occultes, aux pratiques sexuelles différentes, etc. Et en provenance du Père, de la Mère, pour nos propres péchés aussi, hein, parce qu'on n'a pas toujours à poser la faute sur les autres, et traiter ça et couvrir ça par le sang de Jésus. Amen. Et un autre point pour être libéré de l'esprit orphelin, c'est qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et fuir cette tendance à être égocentrique, d'être toujours centré sur soi-même. Ça, c'est la prison du diable. Plus le diable il va te centrer sur toi-même, plus il va t'avoir à sa merci. Dans le psaume 122, verset 8, il est dit: « À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. » Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas un monde où on se dit « Tout va bien pour moi, je m'occupe que de moi et je ne m'occupe pas des autres. » Mais j'ai besoin de m'occuper des gens qui sont autour de moi. J'ai besoin d'avoir un cœur de compassion pour les autres. J'ai besoin de tendre la main vers mon frère. La Bible, le plus grand commandement, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu, il veut qu'en nous, il y ait des entrailles de miséricorde, des entrailles de compassion, pour bénir les autres. Et donc tu dois déverser l'amour, tu dois t'impliquer relationnellement avec les autres, tu dois aimer ton frère, quand ton frère il souffre, tu dois souffrir, quand ton frère il est dans la joie, tu dois te réjouir avec lui, et tu dois pas être que centré sur tes besoins, sur tes problèmes à toi, mais tu vas voir que plus tu vas t'occuper des autres, plus tu vas t'impartir, donner ta vie pour les autres, alors tu vas voir que Dieu lui, il va s'occuper de toi. Amen. Et donc, pas vivre centré sur toi, mais être une bénédiction là où Dieu t'a placé. Tu dois aussi libérer le pardon, c'était juste celle d'avant, et être guéri des blessures et des offenses. Parce que si tu laisses l'amertume, si tu laisses le rejet, si tu laisses ces choses-là pourrir au fond de toi, alors tu ne seras jamais vraiment libéré pour avancer. Tu dois te laisser toucher par Dieu. Amen. Tu peux y aller. Et donc, simplement, vous rappelez qu'on a été créé pour aimer et pour être aimé. Ce verset dans Éphésiens, il dit « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » Si tu viens dans l'intimité, dans le cœur avec le Père, si tu te laisses toucher par son amour, et si tu laisses cet amour enraciné, que tu es fondé dans cet amour et que toi-même tu aimes les autres, et ben de cet amour-là, tu vas voir que tu vas être rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Amen. En conclusion, ça y est. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben simplement, je crois que par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, moi ce que je voudrais que vous disiez, c'est quelles sont les zones orphelines dans ma vie, en fait, qui ont besoin d'être guéri, d'être exposé à son amour. Qu'est-ce que, si je regarde dans mon passé, si je prie, je demande à Dieu de me révéler par rapport à mes ancêtres, est-ce qu'il y a des malédictions générationnelles qui n'ont pas été traitées, qui ont besoin d'être brisées? Est-ce qu'il y a des pardons que je dois libérer? Est-ce qu'il y a des réconciliations qui doivent prendre place dans ma vie? Peut-être comment je vois mon père, comment je vois ma mère aussi. On n'a pas beaucoup parlé de la mère ce matin, mais c'est papa Dieu, maman Dieu. Parfois, si j'ai une mère très présente, autoritaire, si j'ai eu un père abusif, eh ben, j'ai du mal aujourd'hui à réaliser cet amour de père pour moi, de Dieu. Quels sont les pardons que je dois accorder? Est-ce que j'ai fermé mon cœur à des gens et à qui je dois demander pardon par rapport à tout ça? Et simplement, ouais, Joe, si tu veux prendre un change, je voudrais qu'on prenne un temps pour ça. Et simplement, ben, se dire, Seigneur, où j'en suis? Est-ce que, Seigneur, je réalise pleinement ton amour pour moi? Est-ce que je me sens accepté en tant que fils et fille? Ou est-ce qu'il y a des zones dans ma vie encore où je me sens orphelin? Et où j'ai besoin d'être consolé, d'être restauré et d'être guéri? Et si c'est ton cas, eh ben ce matin, alors qu'on va prendre ce chant dans la présence de Dieu, eh ben je t'invite à venir et on va prier pour toi avec les équipiers de prière qui sont là pour que tu sois vraiment libéré de toutes ces racines d'orphelin dans ta vie, que tu ressentes l'amour du Père, que tu te sentes adopté et aimé de Papa Dieu. Parce que si tu sens cet amour-là, ça va bannir la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Et sinon, ce culte est terminé. Donc pour ceux qui veulent y aller, ben on souhaite une bonne semaine. Mais ceux qui ont besoin de prière, ceux qui veulent qu'on prenne un temps avec eux, ben vous pouvez vous approcher et on va prier pour ça. Amen.